Vous écoutez La Voix de l'Espérance. Bienvenue pour cette émission quotidienne qui vous est proposée et présentée par Oscar Miani. Vous êtes à l'écoute de AWR, la Radio Mondiale Adventiste.
Rencontre autour de la parole. Une prédication enregistrée en public en l'église adventiste de Collonges-sous-Salève. Aujourd'hui, la prédication vous est présentée par le professeur Lucas Marulli sur le thème « De la santé au salut, un parcours biblique ».
Merci Laura pour la lecture du texte. Merci à la Marthe de m'avoir donné la possibilité de partager un message spirituel sur le thème de la santé. Je vous rassure, par rapport aux taches qui embellissent mon visage ce matin, je suis passé chez le dermatologue. Donc voilà, quelques petites séquelles, rien de préoccupant. Mais c'est ironique qu'en ces conditions, je puisse parler de la santé. Alors, la santé. La santé, c'est le plus important. La santé, c'est le plus grand des biens. Combien de fois nous avons prononcé ces phrases comme si l'on distillait la quintessence de la sagesse. La santé est considérée un bien sacré. C'est un don de Dieu. Nos corps étant les temples de l'Esprit Saint, il faut les garder propres, fonctionnels, en bonne santé. Avoir un corps en bonne santé, pense-t-on, est indispensable pour se sentir bien avec soi-même et pour se mettre en relation avec les autres de manière honorable, agréable, efficace et constructive. La santé est une dimension humaine à la fois intime, individuelle, privée, mais aussi sociétale et collective. Plus ou moins consciemment, la santé est considérée comme une condition à laquelle on a droit. Il s'agit d'un droit sacré. Mais comme l'écrit Marion Muller-Collard, le sacré, c'est aussi l'intouchable. Et par là, bien souvent, l'indiscutable. Pourtant, il faut pouvoir en discuter. Et sérieusement, sans recourir à des formules stéréotypées et en ayant la sensibilité de laisser s'exprimer surtout ceux pour qui la santé n'est pas toujours au beau fixe. Si Stromae chante « J'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas », on pourrait rajouter « J'aimerais entendre et laisser parler ceux qui n'en ont pas ». En d'autres termes, il faut une réflexion plus ample, d'un point de vue chrétien, sur le concept de santé et de guérison. Et je suis heureux de constater que ces efforts sont déjà en cours. On discute déjà sur le rapport entre la santé humaine et l'environnement, car il y a des enjeux écologiques, de justice sociale. Il y a la prise en compte de la crise que traversent les hôpitaux et tout le système de santé. Il y a également des discussions sur la manière dont le langage liturgique à l'Église pourrait être adapté selon les situations. En Angleterre, par exemple, une église de sourds muets a changé le « Seigneur, écoute nos prières » en « Seigneur, reçois notre prière ». Et un pasteur a même décidé de ne plus inviter les membres de sa communauté à chanter par « Levez-vous, levez-vous pour le Seigneur » puisque plusieurs de ses paroissiens sont en fauteuil roulant. Alors, faut-il vraiment sacraliser la santé et la guérison? Est-ce que la Bible apporte des éléments probants en faveur de la sacralisation de la santé? Regardons ensemble quelques éléments qui, j'espère, pourront inspirer la réflexion de chacun. Commence par l'Ancien Testament. L'Ancien Testament contient plusieurs récits de guérison. John Christopher Thomas les catalogue, les organise en trois groupes. Et je donnerai pour chaque groupe juste un exemple ou deux. Premier groupe, il y aurait d'abord les guérisons liées à l'accomplissement du dessein que Dieu s'est proposé. Dans ce cas, les guérisons ont le but de permettre l'accomplissement des desseins de Dieu par la suppression d'obstacles. Dieu, par exemple, avait promis à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. » Et tu seras une bénédiction. Bien évidemment, la stérilité de Sarah, de Rebecca et de Rachel étaient des entraves. Alors Dieu opère pour que sa promesse ne soit pas rendue vaine par un problème biologique. Un deuxième groupe de miracles de guérison semble avoir la fonction de préserver l'unité du groupe, la cohésion du peuple, par la mise en valeur du véritable leader que Dieu s'est choisi. Ainsi, Myriam, après avoir parlé contre Moïse, est frappée de lèpre. Mais ce Moïse, dont Dieu déclare « C'est lui l'homme de confiance pour toute ma maison », intercède pour sa sœur. Et puis, troisième groupe, ce sont les miracles de guérison qui semblent avoir une fonction toute particulière de témoignage, faire connaître le véritable Dieu, surtout aux étrangers. Ainsi, Naaman le Syrien, après avoir été guéri de façon miraculeuse, affirme « Je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Et de manière plus collective, Ésaïe prévoit la conversion de tout l'Égypte. Au chapitre 19, il nous dit « Le Seigneur sera connu des Égyptiens. Les Égyptiens connaîtront le Seigneur en ce jour-là. Ainsi le Seigneur les frappera, mais il les guérira. Et c'est alors qu'ils viendront au Seigneur, qui se laissera fléchir et les guérira. » Cet aperçu montre que la santé est une valeur primordiale dans l'Ancien Testament et que le Dieu d'Israël est le Dieu guérisseur. La maladie n'est pas compatible avec sa bénédiction et c'est pour cela qu'il se fait le garant de la santé de son peuple. Exode 15, 26 « Si vraiment tu écoutes le Seigneur ton Dieu, si tu fais ce que lui convient, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte. C'est moi, le Seigneur, qui te guéris. » Certes, il y a l'histoire de Job, vous me direz. Mais là aussi, dans la version finale de son livre, dans l'épilogue, chapitre 42, eh bien, il s'agit d'un happy end. Chapitre 42, verset 10, le Seigneur rétablit la situation de Job. Verset 12, le Seigneur bénit la fin de Job plus que son commencement. Verset 16, Job vécut encore 140 ans après cela. Et verset 17, puis Job mourut, âgé et rassasié de jours. Dieu demeure le Dieu guérisseur du vivant de Job. Je les guérirai, c'est la promesse qui retentit encore en Jérémie 33, 6. Le revers de la médaille est de considérer la maladie comme un signe d'imperfection morale ou de mise à l'épreuve qu'il faudra réussir pour s'en libérer, ou encore comme une rétribution divine pour le péché. Le psaume 38 n'est rien d'autre que la prière d'un homme malade qui explique son malheur et sa maladie comme une punition pour son péché. Psaume 38, verset 4, « Il n'y a rien d'intact dans ma chair à cause de ta fureur, ô Seigneur, pas de paix dans mes os à cause de mon péché. » Les disciples de Jésus ne restent pas insensibles à une telle explication si logique. Chapitre 9 de l'Évangile de Jean, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Et le verset 2 du chapitre 9 nous dit « Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents ?» Il n'est donc guère étonnant de découvrir que lorsqu'un descendant d'Aaron était malade, d'une manière temporaire ou permanente, lui qui était par naissance destiné à la prêtrise, était exclu de ses fonctions. Lévitique chapitre 21, versets 17 à 23, je lis quelques extraits, dit à Aaron, parmi ta descendance, dans toutes vos générations, aucun homme qui a une malformation ne pourra se présenter pour présenter le pain de son Dieu. Aucun homme qui est infirme ne pourra se présenter, qu'il soit aveugle, boiteux, qu'il ait le nez déformé, un membre trop long, une fracture, etc., etc. Il pourra manger du pain de son Dieu, mais il n'ira pas vers le voile et ne s'approchera pas de l'autel, car il est infirme. Il ne profanera pas mes sanctuaires. Cette exclusion à l'égard du malade et de l'infirme se retrouve à Qumran, et même dans le temple de Jérusalem à l'époque de Jésus. Flavius Joseph nous renseigne du fait que devant le portique qui amène bien à l'intérieur du temple de Jérusalem, il y avait une garde qui laissait entrer seulement les Juifs mâles, sans tache, c'est-à-dire pas malades, et purifiés. Il ne s'agit pas de disqualifier complètement les infirmes et les malades, mais, comme l'a remarqué Jérôme Vilgaud, les corps en eux-mêmes, de naissance ou par accident, ne sont pas également appropriés à entrer en contact avec le divin, à s'en rapprocher, ne possédant pas le même degré de sainteté. Que l'on veuille ou non, nous pourrions encore aujourd'hui être pétris d'une telle mentalité. Pourquoi le manque de santé génère tant d'angoisse chez certains chrétiens? Serions-nous encore imprégnés de la culture selon laquelle la santé biologique est la chose la plus importante dans notre existence? Qu'elle exprime un degré de sainteté, de grâce et de faveur divine supérieure? La maladie serait-elle vécue comme une malédiction personnelle, un signe de l'absence ou de l'éloignement de la puissance de Dieu et de son pouvoir salutaire? Il faut reconnaître, et maintenant on va dans le Nouveau Testament, que le Nouveau Testament semble parfois reprendre cette vision, c'est-à-dire cette compréhension de la maladie comme liée à l'épreuve ou à la malédiction, et de la guérison comme la conséquence naturelle de la faveur divine. C'est Jésus qui dit dans Luc 5 « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler un changement radical. » Ici, le pécheur, c'est le malade, et le juste est la personne en bonne santé. C'est encore Jésus qui dit à l'homme paralysé, avant même de le guérir, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Marc 2, 6. Ce qui a peut-être été compris par certains comme l'établissement d'un lien entre la paralysie de l'homme et son vécu personnel. L'apôtre Paul aussi, de son côté, déplore ce qui se passe à Corinthe lors des célébrations de la Sainte-Cène. 1 Corinthiens 11, verset 22. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au dîner du Seigneur. Car au moment de manger, chacun se hâte de prendre son propre dîner, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu en faisant honte à ceux qui n'ont rien? Que dois-je vous dire? Dois-je vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. Et quelle est la conséquence de tels agissements? Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre se sont endormis dans la mort. Alors oui, il y a dans le Nouveau Testament une reprise de la vision traditionnelle. Les guérisons, surtout miraculeuses, sont le signe que les plans de Dieu ne peuvent pas être entravés. Je songe notamment à la guérison de Paul qui recouvre la vue pour assumer son rôle d'apôtre des nations. Oui, parfois le miracle est un témoignage pour les non-croyants capable de les amener à la foi. À Éphèse, Dieu accomplit des miracles extraordinaires par la main de Paul, alors que d'autres n'arrivent pas. Le bilan, acte 19-17, cela fut connu de tous ceux qui habitaient Éphèse, juifs et grecs. La crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était magnifié. Pourtant, il ne faut pas se méprendre, car s'il y a par endroits reprise de la vision traditionnelle, il y a aussi et surtout dépassement. Jésus est catégorique. À la question posée par les disciples concernant la cécité de l'aveugle né, à qui est la faute? À lui ou aux parents? Jésus répond, Jean 9, 3, ni lui, ni ses parents. Ou encore, Paul admet que sa maladie n'a pas été incompatible avec son ministère. Au contraire, en écrivant aux chrétiens de Galatie, Galates chapitre 4, il leur rappelle ceci, verset 13 et suivant. Vous le savez, c'est à cause d'une maladie que je vous ai annoncé la bonne nouvelle pour la première fois. Et si éprouvante qu'ait pu être pour vous ma chair, mon corps, vous ne m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire, malade que j'étais, accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. C'est vrai, il y a un lien clair et direct entre la manifestation du Messie, du Fils de Dieu, entre sa manifestation et l'irruption du royaume dans le quotidien des gens, avec la déroute de Satan et la restauration de la santé. Tout cela est bien lié à la personne de Jésus. Le salut est aussi guérison. Matthieu 8, 16 à 17, le soir venu, on lui amena beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus est le libérateur et en tant que tel, il est aussi le guérisseur et celui qui, d'une certaine manière, absorbe le mal et la maladie qui accablent celles et ceux qui viennent à lui. Mais ce n'est pas tout. Chaque miracle de Jésus était surtout un acte symbolique. Il n'a pas transformé ce monde en un paradis, mais il a accompli des signes d'espérance. Il a montré, par ses guérisons miraculeuses, que sa personne, ses paroles et ses actes sont à prendre au sérieux, et que la promesse de la rédemption finale, de la grande guérison finale de toute la création, est digne de confiance. Si les miracles de guérison sont en lien avec l'irruption du royaume de Dieu en la personne de Jésus-Christ, alors ils sont surtout, ces miracles, des signes. Un signe pointe vers une réalité, comme un panneau indicateur. Ce qui est important, c'est la localité, non pas le panneau. Le panneau est utile pour permettre d'atteindre un endroit spécifique. Une fois arrivé, nous n'avons plus besoin de panneau indicateur. De même, une fois que les guérisons miraculeuses ont montré qui est Jésus, et lorsque la foi a été suscitée en la personne de Jésus en tant que Fils de Dieu, alors quid des signes? C'est Matthieu lui-même qui nous donne la réponse à cette question. Jésus, pendant son ministère terrestre, c'est-à-dire pendant la période où il devait montrer qui il était et le sérieux de ses revendications, eh bien, à ce moment-là, il envoie les disciples en mission. Et il donne des instructions très claires. Matthieu 10, versets 5 à 8. « Ne partez pas sur le chemin des non-juifs. N'entrez pas dans une ville des Samaritains. Allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël. » Première condition, il ne faut pas aller vers les étrangers, il faut rester sur place. Ce n'est que pour Israël. Deuxième élément, en chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché, guérissez les malades, réveillez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Pourtant, Jésus avait déjà mis en garde les siens et les foules. Le but, c'est la conversion du cœur. Les guérisons miraculeuses, à la fin, seront plutôt une entrave à la véritable foi. Matthieu 7, versets 21 à 23. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, en nous renvoyant à l'époque de la fin, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé aux prophètes, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Et voilà alors que Jésus enverra à nouveau les 12 en mission, mais cette fois après la résurrection. La résurrection de Jésus est le miracle suprême de la part de Dieu pour confirmer que ce Jésus que les hommes ont rejeté et crucifié est bien le véritable Fils de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Jésus, ressuscité et glorieux, leur dit de ne plus se limiter à Israël seulement, mais d'annoncer l'Évangile partout et à tous les peuples. Matthieu 28, 19 à 20. « Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, en les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en enseignant-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous aurez remarqué que dans cet envoi définitif, il n'est plus question de guérison miraculeuse. Même dans l'Apocalypse, l'accent est mis sur la conversion du cœur, sur la fidélité, l'allégeance à Dieu et à l'agneau, et le refus de la logique et de la violence du mal incarné par Satan et ses bêtes. Dans l'Apocalypse, la guérison sera complète et totale lorsque Dieu aura rétabli toutes choses. C'est dans la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 22, 2, qu'au milieu de la grande rue de la ville et sur les bords du fleuve, un arbre de vie produisant 12 récoltes et donnant son fruit chaque mois, eh bien cet arbre a des feuilles qui sont pour la guérison de toutes les nations. Mais avant, la guérison miraculeuse, spectaculaire, qui est une sorte de parodie de la résurrection de Jésus, et le stratagème utilisé par la bête pour séduire les humains. Apocalypse 13, 3. L'une de ses têtes était comme égorgée, mais sa blessure mortelle fut guérie. Étonnée, toute la terre suivit la bête. De manière progressive, ce parcours de la Torah à l'Apocalypse amène à comprendre que la santé n'est plus en Christ une réalité biologique, mais spirituelle. Certes, nous pouvons mettre en danger notre santé physique et mentale. Il faut éviter cela. Certes, rien n'empêche à l'Esprit de Dieu de continuer de nos jours à se manifester d'une manière inattendue et puissante. Certes, il faut faire confiance à la science médicale, soutenir la recherche et remercier tous ceux qui, avec conscience et compétence, œuvrent pour la santé des individus et de la collectivité. Pourtant, Jésus nous invite à ne pas sacraliser la santé. Parfois, il est nécessaire d'accepter une maladie comme notre compagnon de voyage vers l'épanouissement spirituel. Un corps ou un esprit malade en Christ est absolument saint, S-A-I-N-T, et parfaitement rempli de la grâce et de la puissance de Dieu. C'est l'Esprit qui habite le temple. C'est l'Esprit de Dieu qui habite nos corps et nos esprits, qui donne à chacun de nous toute sa dignité, son importance et sa beauté. Je conclus en citant la lettre aux Éphésiens, où au chapitre 4, il est question du corps du Christ, que chacun de nous, tous ensemble, formons. Un corps saint et saint, sans le T, selon les critères suivants. Éphésiens 4, verset 21 suivant, je lis là aussi quelques extraits. Conformément à la vérité qui est en Jésus, il s'agit de vous de faire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée, d'être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Que le voleur ne vole plus, qu'il se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais si l'on a besoin, une parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Voici la guérison et la santé à laquelle, tout d'abord, en tant que corps du Christ, nous devons aspirer. Amen.
C'était Rencontre autour de la parole, une prédication de Lucas Marulli, une émission proposée en partenariat avec l'Église adventiste de Collonges-sous-Salève.
Au nom de l'amour.
Est-ce un nouveau film ?
Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC.
IEBC ?
Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits.
Tu as raison. Au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org.
Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.